Vous écoutez
RMC.
RMC.
32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. Allez, j'ai perdu.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Fabinho qui est moins la lance de lancement. La rampe de lancement.
Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Et nos drôles de dames, bien sûr, parce qu'on est lundi, et lundi c'est drôle de dames, avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel et Johan Crochet avec vous au 32-16. Venez poser vos questions à nos drôles de dames à partir de 21h45, hein, bien sûr. Pas mal de messages également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. YLC, YLC, qui nous dit Fred, est d'humeur joyeuse ce soir.
Ben, il faut expliquer, alors je vais expliquer parce que j'avais oublié que nous étions, même pendant la pub, on nous voyait.
Oui.
Mais en fait, c'est parce que nous parlions musique avec Johan et je lui parlais d'un chanteur italien très connu en Espagne, mais a priori pas très connu en Italie, qui s'appelle Franco Battiato.
Moi, je le connais pas. Ça se fait,
Donc, je lui suggérais pour sa musique la semaine prochaine. C'est Cento, cento di gravità permanente.
Non, finalement, je ne vais pas le mettre.
Bah, vous l'avez eu quand même. Voilà.
Alors, avec le Drôle de Dame, on est là jusqu'à 22h. Les Drôles de Dame qui ont donné leur avis, leur souhait concernant l'Euro. On va maintenant, avec elle, se mettre dans la peau de Xabi Alonso. Pourquoi ? Parce que l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen est hyper courtisé. Rappel, hein, il est engagé sur toutes les compètes, il a invaincu cette saison. Ça parle de Liverpool, du Bayern, du Barça, du Real Madrid, alors plutôt pour la saison prochaine. Si vous étiez Xabi Alonso, vous feriez quoi cet été? Venez nous donner votre avis avec nos drôles de dames au 32-16. Avant d'entendre votre avis, juste mon polo, j'aimerais bien faire un point sur ce qui se dit aujourd'hui concernant l'avis de Xabi Alonso. J'ai vu que Bild affirmait qu'il était la priorité du Bayern Munich.
Il est la priorité. Alors c'est très intéressant, parce que Max Eber, vous savez qu'il est le nouveau patron du sport du Bayern, a dit qu'il n'avait pas de contact avec Xabi Alonso. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'a pas de contact avec son entourage. Donc ça, quand on connaît Max Eber, on sait comment ça fonctionne. Très clairement, l'Espagnol est la priorité des priorités pour la saison prochaine, donc 2024-2025 pour le Bayern Munich. Mais il y a un facteur dont on oublie beaucoup, ce sont les joueurs du Bayer Leverkusen. C'est-à-dire que je suis Xabi Alonso, je suis le Bayern Munich. Si je vais chercher Florian Wirtz, par exemple, pour l'associer à Moussiala, je suis Xabi Alonso, je pense que ce n'est pas la même chose que le garder l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Grimaldo a déclaré. Il dit, moi je voudrais continuer avec le coach. Il dit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé de club ces dernières années, etc. C'est pas forcément bon, etc. Mais moi, je voudrais continuer avec lui. Je ne sais pas s'il disait, je veux continuer avec lui au Bayer Leverkusen, ou est-ce que c'est, en cas d'un départ de l'Espagnol au Bayern, le suivre, d'autant plus que vous savez que le poste d'arrière-gauche au Bayern Munich sera sûrement un gros sujet cet été pour les transferts. Donc, la priorité... En Allemagne, en fait, on pense qu'il ne veut pas aller à Liverpool. On pense qu'il préférerait le Bayern Munich. Moi, je ne sais pas ce qu'on dit en Angleterre. En tout cas, c'est ce qu'on se dit en ce moment.
Juste toi, Polo, tu ferais quoi à sa place? Si tu étais Xabi Alonso, tu ferais quoi l'été prochain?
Moi, si on m'amène dans mon package, si on m'amène Wirtz, je pars au Bayern.
Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien la théorie du « si je peux partir avec des mecs, j'y vais ». C'est pas mal. Tiens, juste avant d'avoir votre avis également, juste petit détour par Bonal, on va retrouver Patrick Müller. Le match de l'équipe de France olympique vient de débuter face aux États-Unis. Match de préparation pour les JO qui débutent dans 122 jours. Je vous rappelle qu'RMC est la radio officielle des JO Paris 2024. Salut Patrick.
Salut Nicolas, c'est même le dernier match hein, avant les Jeux Olympiques pour cette équipe de France Olympique qui va retrouver précisément son adversaire du soir en ouverture de son tournoi. Ce sera le 24 juillet face donc aux États-Unis, mais j'allais dire plutôt du côté de Marseille. Et quelques soucis d'effectifs hein, pour ce match avec cette blessure, vous le savez sans doute, de Bradley Barcola face à la Côte d'Ivoire et des absents de dernière minute. C'est Yoro et Mio, mais Kalimuendo est présent à la pointe de l'attaque dans ce 4-3-1-2 préférentiel de Thierry Henry, le sélectionneur, qui a arrêté et laissé tomber l'idée, pour l'instant en tout cas, du 4-3-3.
Merci Patrick, s'il se passe quelque chose, tu n'hésites pas, bien entendu. Julien, je me tourne vers toi. Si tu étais Xabi Alonso, tu ferais quoi la saison prochaine? T'as entendu ce qu'a dit Polo? Apparemment, en Allemagne, il se dit qu'il ne veut pas aller à Liverpool.
Ouais, on a aussi quelques échos un petit peu similaires. Moi, ce que je voulais dire d'abord, pour commencer, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que Xabi Alonso n'a pas encore terminé une saison pleine comme entraîneur. Et déjà, il a deux des plus grands clubs du monde qui sont après lui, avec le Bayern et Liverpool. Je trouve ça juste incroyable. Incroyable. Le gars, il n'a pas fait une saison entière déjà. Et c'est juste exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Moi, si j'étais à sa place ou si je pouvais le conseiller, Liverpool, bien sûr, sur le papier, c'est génial. C'est un club où il a passé des très belles années, bien sûr. Il aime beaucoup l'Angleterre, il parle anglais. Je pense que la Première Ligue, pour tout entraîneur, c'est aussi un rêve parce que c'est le meilleur championnat du monde. De passer derrière Klopp dans un sens, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit faire très plaisir d'être le successeur de Jurgen Klopp. Mais je pense que Xabi Alonso sait aussi à quel point ce sera difficile. Pas simplement de passer derrière Klopp, parce que finalement, Klopp a été là pendant 9 ans. 9 ans, c'est pas Wenger, c'est pas Ferguson, c'est pas Giroud, c'est pas... Voilà, c'est... 9 ans, ça peut passer encore. Tu peux arriver après 9 ans et imposer tes idées plus facilement. C'est pas comme...
c'est quand même beaucoup dans le foot actuel, Juju.
Ouais, mais quand même. Je pense qu'il y a un certain moment où c'est tellement ancré, un Wenger, un Ferguson, un Giroud, etc. C'est tellement ancré que tu peux pas réussir. C'est impossible quasiment. 9 ans, je pense que ça peut encore passer. En revanche, moi je lui dirais, écoute, Guardiola, il est encore là. Et City est encore la meilleure équipe du monde. Elle le restera l'année prochaine et sûrement l'année d'après et jusqu'au départ de Guardiola. Après, ils auront du mal à gérer l'après Guardiola. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant... Pour moi, le Bayern Munich, si on se place sur rester à Leverkusen n'est pas vraiment une option. Hein. Si on parle ici du Bayern ou de Liverpool, pour moi, le Bayern, d'accord, peut-être qu'effectivement, ce sera facile de gagner le championnat parce que t'es dans le plus grand club et la meilleure équipe, peut-être avec les meilleurs joueurs. Mais va au Bayern, continue d'apprendre, tu seras mieux en Ligue des Champions, tu pourras peut-être même aller gagner la Ligue des Champions avec eux et tu seras encore plus apte, je vais dire, et prêt, encore plus prêt pour aller à Liverpool.
Oh, la condescendance, mon polo, vis-à-vis de ton Bayern.
Non, mais c'est même pas ça. je dis rien. Mais les marrantises, tu sais, c'est que l'Angleterre gagne l'Euro en Allemagne, quoi. Tu vois le chambrage déjà, là, déjà.
Je te comprends.
Mais voilà, je pense que on dit souvent que le train passera pas une deuxième fois. Mais je pense que quand t'es Xabi Alonso à l'âge qu'il a, les trains, que ce soit le Real, le Bayern, Liverpool, il repassera un moment. C'est obligé. Donc, le Bayern pour moi maintenant et après peut-être Liverpool.
Johan, t'es Xabi Alonso, tu fais quoi l'été prochain?
Bah, je suis sur le même avis que Julien, notamment parce que je sais. Moi, je suis encore, on va dire, plus définitif que Julien sur passer derrière Klopp. Pour moi, ça va être extrêmement difficile. Pas simplement sur le côté football, mais aussi sur le côté émotion. Parce qu'il avait créé un lien extrêmement important avec les supporters à Anfield. Et que passer derrière ça, ça ne sera pas forcément simple pour celui qui va arriver derrière. Et d'ailleurs,
mais Xabi Alonso, il a déjà le lien. Yo. Donc tu vois, par exemple, tu prends un Ferguson et un David Moyes, là, il avait tout ça à créer. Xabi Alonso, il a déjà
ça. Il connaît le club, mais bon.
Mais il a pas le même lien que Klopp quand même, Julien. Il y a pas
non,
la
d'accord,
même...
mais il a été un très grand joueur.
Mais tu vois, par exemple, c'est pour ça que moi aussi, et là, il n'a pas le lien, mais je n'ai pas spécialement envie de voir de Zerbi à Liverpool, par exemple, pour la même raison.
On en parlera
tout à l'heure. Mais pour moi, effectivement, s'il doit partir de Leverkusen, parce que moi, j'aimerais bien qu'il fasse encore une saison à Leverkusen, vraiment, parce qu'il peut y avoir des choses en Coupe d'Europe qu'on aimerait voir dans une meilleure compétition. Parce qu'il y a des joueurs qui doivent amener encore plus haut.
Sachez un truc, on vous a sondé, hein, chers afteriens et afteriennes, sur les réseaux sociaux notamment. On vous a posé cette question, vous êtes Xabi Alonso, vous faites quoi? Il y a énormément de gens qui nous écoutent et qui nous suivent qui disent, moi je serais Xabi Alonso, je resterai un an de plus. Mmh. Moi je trouve que c'est un cadeau empoisonné aussi. Ouais, là il surperforme.
Exactement. Non, je finis juste là-dessus, mon polo. C'est un peu comme... Spalletti qui gagne le Scudetto avec Naples.
Bah oui.
C'est impossible de faire mieux.
Et il l'a bien su, lui.
Il sait très bien qu'après, avec la Ligue des Champions, il va perdre des joueurs, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Le côté sentimental voudrait que Alonso continue, que Leverkusen, en plus, Bayer, c'est un beau groupe et qui peut garder quand même ses joueurs aussi. Hein. Attention, hein, on est en train de parler du FC Gif sur Yvette qui doit vendre ses meilleurs joueurs, tu vois. Donc,
respect, Jean-Claude.
Disons que mon option numéro 1, ce serait qu'il reste à Leverkusen. Mais s'il doit partir, effectivement, pour moi, la meilleure option, c'est le Bayern. Parce que aussi, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de bons joueurs. Il y a pas mal d'argent. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui vont dans « j'arrive dans un grand club ». Et on me donne quand même un peu de latitude.
Polo, juste avant que tu rebondisses, ton avis là-dessus, Fred, je crois que toi aussi, tu es plutôt partisan du « reste encore une saison à Leverkusen » et...
Bah, parce que le Real... Alors, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real jusqu'en 2026. Je pense pas qu'il ira au-delà de ces 2 ans.
Et je pense que même un an, ça va dépendre des résultats. Parce qu'avec Mbappé au Real, je ne te raconte pas les exigences des dirigeants madrilènes. Ouais. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas champions au mois de mars, et si par exemple ils sont éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions, ça va être très compliqué pour Ancelotti. C'est-à-dire, faut voir ce que représente l'arrivée d'Mbappé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune excuse. C'est-à-dire, c'est la pression sur Ancelotti.
C'est obligation de résultats.
Ah ben, c'est un truc de malade, de beau jeu, de résultats, etc.
Et donc, quoi, toi, tu dis quoi?
Reste un an de plus, maximum deux ans, parce que je pense que dans un an, tu vas avoir le Real. Tu vas voir le Real avec Mbappé, avec Bellingham, avec Vinicius, avec des joueurs jeunes, avec une équipe qui est en train de monter. Passer après Ancelotti, ça va pas être si difficile que ça, parce que c'est le même, comment dire. Alors, Xabi Alonso, c'est très bien qu'il y ait Ancelotti, enfin, c'était son entraîneur aussi. Donc, tu vois, je pense pas qu'il y aura Alonso, l'arrivée dans le vestiaire du Real, du vestiaire d'Ancelotti, ça va se faire tout seul. Donc, moi, je pense que c'est une occasion parce que. De toute façon, il est évident, et ça, tous les gens à Madrid vous le disent, que Xabi Alonso, un jour, sera l'entraîneur du Real. Il a encore le temps. Mais là, ça peut être dans un an. Donc moi, je pense que... Et puis, faire qu'une seule saison au Bayern Leverkusen, ça me paraît pas beaucoup. Je pense qu'il faut peut-être aller au bout de l'aventure.
Ouais, mais il faut peut-être sentir les limites, non, du truc.
Bah, les limites du truc, enfin, les limites du truc,
vas-y,
c'est que...
Vas-y, Polo.
Tu vis une saison exceptionnelle, tu vas en Ligue des Champions l'année prochaine.
Ouais, mais si tu t'effondres et que tu finis 12e de Bouli...
Mais même si tu t'effondres l'année prochaine, on dira, mais c'est simplement
ouais, mais
parce
c'est la mémoire immédiate.
Mais non, on dira, c'est parce qu'il n'y avait pas les joueurs fous. Mais ça va pas remettre en cause ce qu'a fait Xabi Alonso cette saison.
Vas-y, Polo.
Il peut rester à Leverkusen si on lui offre un effectif équivalent, voire meilleur. Mmh. C'est ça la question. Et Simon Rolfes, donc qui est le nouveau directeur sportif, celui qui a remplacé Rudi Völler, il y a deux mois, il disait « il va rester avec nous, j'en suis sûr », et là, il commence à dire « on n'est jamais sûr de rien ». Donc, ce n'est pas tout à fait dans la communication la même chose. On parle, encore une fois, ce sont des rumeurs, de l'arrivée de Chris Führig, le joueur de Stuttgart, qui pourrait venir à Leverkusen, donc ce sera à peu près 15-20 millions. Leverkusen, même s'il y a la multinationale Bayer derrière, ce n'est pas un club qui peut acheter des joueurs du niveau du Bayern Munich. Et le problème, c'est qu'il va falloir que tu conserves après un euro, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une année, vous savez, où on a une compétition tous les deux ans. C'est que là, l'euro sera parti. C'est-à-dire qu'en général, c'est là où les joueurs se disent « Bon, maintenant, allez, je suis resté à Leverkusen jusqu'à l'euro, j'ai réussi mon euro, je pars. » On n'est pas dans une année transitoire. Et c'est important, parce que je vous ai parlé de Grimaldo, je vous ai parlé de Wirtz, évidemment, le plus grand actif du Bayer Leverkusen, qui est très demandé, y compris par la Première Ligue, d'après ce que j'ai compris. Et puis, il y a un autre joueur, c'est Frimpong. On en parle aussi du côté du Bayern, parce que ça ne va pas du côté droit du Bayern Munich. Donc, le Bayern, s'il commence à faire une OPA sur les joueurs de Leverkusen, je suis Xabi Alonso, bah, ça devient compliqué de rester à Leverkusen. C'est ça, là, le problème. Boniface ne partira pas, parce qu'il a tellement explosé cette année que sa valeur est extraordinaire. Mais si tu n'arrives pas à garder ton effectif et que tu le renforces, je suis l'Espagnol, parce que c'est ça les coachs, hein. C'est pas je reste pour vous faire plaisir, c'est pas la sécurité sociale, hein. Je reste parce que vous m'offrez 2-3 jours en plus. C'est tout, ça, c'est que des négociations comme ça de toute façon avec les clubs. Donc c'est ça qui me semble un petit peu compliqué.
Allez, dans quelques instants, on va se replonger sur le mercato des entraîneurs. Voilà ces autres entraîneurs qui vont animer, exciter votre été, cher drôle de dame. Avant cela, petit détour par Bonal, Patrick Müller, l'équipe de France Olympique affronte les USA ce soir.
Oui, et ça a été une entame un petit peu chahutée pour les Bleus avec cette grosse parade signée Reste, le portier de Toulouse, sur une tête de Maurice qui était tout seul. Ça va mieux pour les Bleus avec de la présence offensive et un joli coup franc à venir.
Allez, on vous attend au 32-16, after rien, pour poser vos questions aux drôles de dames. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Fred Hermel, Johan Crochet, Julien Laurence, Polo Breitner avec vous. On vous attend au 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames. On s'est mis dans la peau de Xabi Alonso. On a décidé ce qu'on allait faire l'été prochain avec nos drôles de dames, qui n'étaient pas forcément d'accord d'ailleurs. Ouais,
c'est là, tu me permets, parce que j'ai un message, quelqu'un qui trouve que j'ai maigri.
Sur le chat de la chaîne YouTube.
Ouais, c'est pour ça, j'ai maigri et oui, c'est vrai.
Quel mytho.
Mais sérieux, il m'a dit ouais, j'ai perdu 5 kilos. J'ai fait un régime et puis en plus c'est carême tout ça, donc c'est bien tombé. Donc voilà, excuse-moi parce que je vois qu'il y a des auditeurs qui nous regardent qui me regardent mon physique, parce que je ne suis pas qu'une voix de radio, je suis aussi un physique de télé.
Non, je crois que tu as dit je suis aussi un physique de radio. Mais d'ailleurs, vous êtes très nombreux, on vous remercie. Hein, merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous sur le chat de la chaîne YouTube de l'After et puis pour les podcasts et tout ça, bien entendu. Alors il y a d'autres entraîneurs qui vont exciter nos étés aussi, au-delà de Xabi Alonso. Je sais, Johan, par exemple, que tu es curieux de savoir ce qu'il va devenir de Roberto De Zerbi, hein, ton chéri.
Aïe.
Ouais, mon chouchou, évidemment. Bon, ce qui est certain, c'est que...
C'est pas ouf avec Brighton cette année. 8e de Première Ligue, ils sont éliminés en 8e de finale d'Europa League par la Roma. C'est pas dingue ce qu'ils font cette année, on est d'accord.
En termes de résultats. C'est une vraie
question. Ouais, non, mais en termes de résultats, c'est pas fou. Si.
Brighton,
ouais.
Première saison européenne, ils font 8e de finale et ils sont quand même 8e de Première Ligue, c'est pas ouf.
Non, mais je trouve, je sais pas. Je pensais que ça allait franchir, c'est un autre
cap. Il y a eu des débats cette saison.
Ouais, c'est pas.
Oui,
c'est pas régulier, quoi, ça que je veux dire.
Non, c'est pas régulier, mais juste parce que c'est peut-être aussi la première fois que des joueurs ils jouent deux fois par semaine toute la saison.
Ah, excuse-moi, Roland Courbis.
Et. Bah non, mais. c'est typiquement ce que De Zerbi avait prévu.
Il faut pas dire du mal de son De Zerbi, hein. Il vient
oui, déjà. Mais en fait.
C'est qu'il mordrait,
mais en fait, il a expliqué tout à la fin de la saison dernière. Et tout ce qui se fait là cette saison, il l'avait prévu.
Ah, c'est dur, quoi, en fait.
Et ouais. le truc, c'est que ses dirigeants ne l'ont pas écouté sur le mercato. Ils ont vendu des joueurs très chers. Ils ont perdu trois titulaires très importants, Cole Will, McAllister et Caicedo, pour les joueurs très importants. Et ça n'a pas été remplacé en termes de nombre, plus ou moins, mais de valeur. Et le souci qu'a Roberto De Zerbi, c'est qu'il avait dit, déjà, d'une, les joueurs mentalement, ils sont pas prêts à jouer deux matchs par semaine. De deux, il y en a qui vont se blesser.
Ça veut dire quoi? Qu'il va partir alors, tu penses, cet été?
Les relations, elles sont pas dingues. Hein, là, ouais. Encore plus, où cet hiver, ils lui ont pris personne à part Barco de Boca Junior, alors que lui réclamait un milieu de terrain, un attaquant, etc. C'est complexe. Et moi, je pense qu'il restera pas à Brighton, que c'est trop compliqué maintenant. À moins qu'il lui fasse vraiment un gros mercato pour essayer de réparer ce qu'ils n'ont pas fait là depuis un an. Et si j'étais lui, au-delà du fait que l'Italie, pour le moment, ça me semble infaisable parce que c'est ce qui filtre quand on lui parle ou quand on parle à ses représentants, c'est que lui, il a envie de rester en Première Ligue, même s'il y a eu des contacts avec le Barça, notamment. Moi, je serais lui, je n'irais pas à Liverpool parce que, pour toutes les raisons que j'ai expliquées pour Xabi Alonso, j'irais à United. Parce que nouveau projet... parce que tu auras quand même, je pense, je sais pas, Julien me corrigera si c'est pas le cas, mais je pense qu'il aura quand même de l'argent à dépenser et de quoi recruter des bons joueurs. Je vais pas dire qu'il y a tout à faire, mais il a de quoi imprimer sa patte et faire en sorte que cette équipe lui ressemble et ressemble à ses idées. Et donc, et notamment, il n'y a pas un héritage dingue entre Eric Ten Hag et les supporters de United.
Alors, Julien, qu'est-ce qui se dit en Angleterre concernant l'avenir de De Zerbi, là, en PL notamment?
On dit qu'on a de plus en plus peur au club qui s'en aille, parce que le club aimerait qu'il reste un petit peu plus, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose cette saison qui ne va pas à la façon dont il peut critiquer le propriétaire, par exemple, publiquement, qu'il n'avait jamais fait avant, que personne n'avait jamais fait d'ailleurs à Brighton, qui n'est pas très bien passé. Mais il avait sûrement ajouté, il avait sûrement raison, hein, d'ailleurs, parce que je pense qu'à un moment, il a été frustré lui aussi, comme l'a très bien expliqué Yo, de ce qui s'est passé cette saison. Et puis surtout, encore s'il n'y avait personne, aucun autre club qui le voulait, il resterait peut-être encore un an. Mais là, il sait très bien que sa cote sur le marché, elle est très élevée, qu'il y a beaucoup de clubs, plus que d'habitude, qui vont chercher un entraîneur, de Barcelone à Liverpool, en passant par, encore une fois, le Bayern, peut-être même des clubs italiens, français, voilà, tout ce que tu veux. Donc je pense qu'il sait qu'il fait partie des favoris sur pas mal de marchés, pour pas mal de clubs. Donc c'est sûrement le moment de partir. Pour United et Ten Hag, on ne sait pas encore, mais il y a quand même beaucoup de signes qui laissent penser qu'il pourrait effectivement se faire virer cet été. Donc en plus, tu rajoutes United à tous les clubs dont on vient de parler. Je ne sais pas si United, ce serait vraiment mieux que Liverpool. Je ne sais pas si le Barça, c'est une bonne idée. Moi, si je suis des Zerbi, si on joue au même jeu qu'on a joué tout à l'heure avec Xabi Alonso, mais plus rapidement. Si t'es des Zerbi, tu vas où? Je ne sais pas si le Barça, c'est une très bonne idée pour l'instant. Liverpool, pour les mêmes raisons que pour Xabi Alonso, c'est peut-être un petit peu compliqué. Franchement, je ne sais pas.
On a prononcé le nom du Bayern, Polo. Alors, je sais que c'est une information, une rumeur, on peut appeler ça comme vous voulez, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Ce serait le plan B du Bayern, des Zerbiens.
Ouais, en fait, il y a deux, trois noms qui circulent. De Zerbi en fait partie, logiquement, par rapport à ses résultats. Le Bayern, je l'ai souvent dit, n'est pas un club actif, c'est souvent un club réactif. Et évidemment, il y a peut-être un changement de génération et des nouveaux qui arrivent. Et à partir du moment où De Zerbi est potentiellement sur le marché, ben, le Bayern va s'intéresser à lui. Mais ce serait vraiment dans un plan B, par rapport à Xabi Alonso. Il faut bien jouer aujourd'hui au Bayern Munich. Ça fait partie où Lyonnais n'arrête pas de le répéter, que l'ADN du Bayern, qui n'a pas toujours été le beau jeu, est depuis une quinzaine d'années, en fait, forcé d'avoir des coachs qui jouent bien au football en plus d'avoir des résultats. C'est une nouvelle caractéristique et De Zerbi, naturellement, deviendrait un candidat au Bayern Munich.
Tiens, Polo, puisque tu as la main, est-ce qu'on a une idée, puisqu'on parle du Bayern, de ce que va ou veut faire Tourelle la saison prochaine ?
Alors, il y a deux choses. Je peux coupler avec Nagelsmann ?
Vas-y, fais-toi hein, plaisir, Polo, chez toi, t'es à la maison.
Non, mais Tourelle, évidemment, repartira d'Allemagne. De toute façon, ils n'en veulent plus. Hein. C'est assez dramatique, d'ailleurs, la façon dont médiatiquement on traite ce bonhomme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Moi, par exemple, il ne m'intéresse plus du tout dans le jeu qu'il produit. Mais la logique, ce serait la Première Ligue, mais je pense que s'il y a une place comme un club au Barça, et ça me paraît évident qu'il sera un candidat naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un Thomas Tuchel sur le marché quand on connaît les difficultés ou de lui ou de son clan, hein, de son entourage, pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles, pourquoi du comment, et les difficultés qu'il a sur, notamment ceux qui sont responsables du recrutement. Quand il ne veut pas un joueur, il ne veut pas un joueur. Et ça se voit, c'est-à-dire que le gars, si c'est lui, il ne l'a pas choisi. C'est fini, le gars, il est plus du tout là. Quoi. Donc, on a fait semblant avec Kimmich que ça se passait bien. Non, ça se passe pas bien avec Joshua Kimmich. C'est pas possible. Et si lui a lancé en début de saison le fait qu'il ne voulait plus de Joshua Kimmich et le fait du 6, il va pas changer en cours de saison. Donc, il est un peu psychorigide à ce niveau-là.
Fredo.
Et puis l'autre, bien sûr, c'est Nagelsmann, je m'excuse.
Oui, vas-y, pardon.
Nagelsmann, il est encore, ne l'oublions pas, sous contrat avec le Bayern Munich. Et il est prêté, il est mis à disposition à la Fédération allemande. La Fédération allemande souhaite le prolonger comme Rudi Völler après l'Euro. Nagelsmann n'a pas fermé la porte à une prolongation avec l'équipe nationale. Mais moi, je suis Nagelsmann. Si je réussis un bon Euro, si le Bayern commence à se rendre compte qu'ils ont peut-être fait une erreur à l'époque en me faisant partir, pardon, et en me remplaçant par Thomas Tuchel, vu que j'ai éliminé, entre guillemets, la génération intermédiaire, je peux peut-être revenir au Bayern plus fort que jamais, quoi.
Tiens, juste pour revenir à Tuchel, c'est vrai que son nom a fait pas mal d'écho en Espagne. D'ailleurs, lui-même, dans une interview il n'y a pas longtemps, il avait déclaré, ça avait fait grand bruit, qu'il était très fan de la Liga. Toi, tu y crois au Barça ou pas ? Parce qu'il y a l'histoire de Xavi qui revient, on en a souvent parlé les lundis notamment, mais...
Ben, c'est-à-dire que Xavi, alors là on sent qu'il y a une grosse campagne du côté des dirigeants du Barça.
Ouais, mais moi j'y crois pas un instant. Pour moi c'est de la com, Fredo.
Bah oui, d'accord, mais d'ailleurs que tu vois des journalistes, parce qu'il faut savoir lire, quand tu lis les journaux, il faut savoir lire les signatures.
Ouais.
Et quand tu vois que des journalistes qui ont un certain poids, mais tu sais d'où vient l'information, qui disent ah non mais Xavi c'est bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut qu'il reste, etc. On sait très bien que c'est... Puis c'est-à-dire que pendant qu'on parle de Xavi reste, on parle pas du fait qu'on sait pas qui va le remplacer. Mm. Donc là aussi, hein, je sais comment les clubs savent manipuler certains journalistes, certaines plumes. Et vu la relation qu'il a avec Deco, ça me paraît incroyable que Xavi reste. Après, j'ai vu tellement de trucs dingues dans le football que je ne peux pas dire, mais Xavi a annoncé qu'il partait.
Mais Tuchel, tu crois pas au Barça ?
Mais en fait, la question, c'est de savoir dans quel état financier sera le Barça la saison prochaine.
Ouais.
Quels joueurs ils vont pouvoir garder et quels joueurs ils vont pouvoir faire venir.
Ouais.
Parce que là, ils sont à moins de 200 millions sur la masse salariale. Donc, ils sont obligés de dégraisser pour l'instant. C'est-à-dire que c'est un tel problème financier qu'a le Barça aujourd'hui que c'est-à-dire que quand j'écoutais Polo qui disait oui, Xabi Alonso, ça dépend quel joueur il va avoir l'année prochaine, mais le projet du Barça, ce sera quel joueur. Alors, il y a toujours de bons joueurs, mais est-ce que le Barça va pas être obligé de vendre quelques... Là, pas vendre son Barça Studio, ni des trucs qu'on ne connaissait pas.
Ouais.
Je vais te vendre des joueurs, des vrais joueurs, là. Donc, automatiquement, si tu vends et en général, tu vends pas les mauvais, hein. Tu vois, tu vends les bons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui autour. Moi, je me demande finalement si Xavi s'en va. La logique, ce serait d'avoir Rafa Márquez, les joueurs. Parce que lui, à n'importe quel Barça, il prendra. Tu vois, l'entraîneur de l'équipe B. Qui s'est un petit peu trop mouillé, qui s'était fait un peu taper sur les doigts, tellement ouais. Il avait présenté vite ça. Le soir même, il présentait, l'annonce de Xavi présentait sa candidature. Donc c'était mal vécu, mais je suis pas. Alors c'est toujours intéressant pour un entraîneur de venir au Barça, mais le Barça actuel, avec toutes les incertitudes financières, je pense que ça peut refroidir certains.
On va passer à la minute anglaise et ça va parler d'entraîneur là aussi. When you walk through a storm. Alors Julien Laurence, tu as choisi la musique légendaire d'Anfield hein, pour revenir sur le rêve réalisé par Sven-Goran Eriksson il y a quelques jours.
Ah, c'est la seule chanson que vous pouvez utiliser ce soir hein. D'ailleurs on devrait la laisser un petit peu plus, surtout pour le refrain encore une fois, parce qu'on a eu un match amical caritatif samedi à Anfield devant 56 000 personnes entre les légendes, une équipe de légendes de Liverpool avec Steven Gerrard et Fernando Torres par exemple, contre une équipe de légendes de l'Ajax avec Gareth Bale bien sûr, mais aussi Edgar Davids, ce genre de joueurs là. Mais c'était un match très particulier, pas simplement parce qu'on a des matchs comme ça de légendes assez régulièrement dans nos clubs, dans nos pays, mais parce que sur le banc de Liverpool, c'était pas un ancien entraîneur de Liverpool qu'on a trouvé, c'était Sven-Goran Eriksson, qui a 76 ans aujourd'hui, qui a atteint d'un cancer incurable. Et le jour de, enfin, les jours où il a annoncé qu'il avait ce cancer, il a aussi exprimé son rêve un jour de pouvoir entraîner Liverpool, l'équipe qu'il supportait en étant enfant, qu'il a toujours admiré, qu'il a toujours supporté finalement, même quand il était entraîneur, même quand il l'affrontait. Et ben Liverpool et Jürgen Klopp ont réalisé son rêve de manière tellement émouvante samedi, vraiment, c'était vraiment beau. L'ovation, ses larmes à lui bien sûr, que toute sa famille soit là aussi, et que tout le monde lui a rendu un si bel hommage. Alors lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'entraîneur qu'il a pu être pour l'Angleterre, en Italie, un petit peu partout, mais voilà, qu'il ait entendu cette chanson, cet hymne comme ça à Anfield, et lui en tant qu'entraîneur de Liverpool juste pour un jour, c'était assez magnifique.
Voilà, bel hommage hein, rendu par Anfield à Sven-Goran Eriksson. Bel hommage également de ta part, Julien. Dans un instant, on va revenir avec nos drôles de dames. Les larmes de Vinicius, là aussi, un gros moment d'émotion. C'était tout à l'heure en conférence de presse avec le Brésil. Et puis Igor Tudor, qui a signalé à la Lazio, l'ancien coach de l'OM. Bon choix ou pas ? Explication avec Johan Crochet juste après ça sur RMC. Tiens, et avant de partir, le temps, le score entre l'équipe de France Olympique et les USA, Patrick Muller.
25 minutes de jeu quasiment ici et toujours 0-0 entre les Bleuets et leurs homologues américains.
Ça joue comment, Pat ?
C'est mieux, beaucoup mieux pour les Français avec trois occasions coup sur coup et notamment Ryan Cherki là, qui a trop croisé sa frappe.
Est-ce qu'il a manqué
Ouais. Mais c'est sans doute le meilleur Bleuet pour l'instant depuis le début de cette rencontre. Entame assez difficile et là ils sont en train de prendre l'ascendant et surtout ils vont bénéficier d'un pénalty, semble-t-il, les hommes de
Thierry Henry.
Ah ouais, apparemment.
La main
apparemment.
De Sam.
Moi j'ai vu une main de Cherki moi.
C'est un arbitre espagnol.
Encore un qui est sur Real Madrid TV celui-ci.
Et ce sera Kalimuendo qui devrait se charger de ce.
Vas-y, on t'accompagne pendant le pénalty. On est là pour t'accompagner, comme dit Walid.
Ah bah voilà, ça me fait plaisir. Bon, ça.
Crie bien but, hein, comment ouais.
Ça pourrait consacrer en tout cas et récompenser cette bonne période des Français là, qui ont eu trois grosses occasions coup sur coup. Il y a eu une frappe surpuissante d'Andy Diouf après un bon travail.
Quel beau maillot des Bleus.
Il est beau.
Ah ouais.
Et il y avait une première situation tout à l'heure déjà avec une frappe de Kalimuendo dans un angle fermé. Il a l'occasion d'ouvrir la marque, le joueur du Stade Rennais. C'est chose faite. Voilà le pénalty transformé, le contre-pied parfait. Ça fait 1-0 pour les Bleus.
Et mon but
face
but,
aux États-Unis. But. 26 minutes. Et ça rime, Voilà.
Allez, à tout de suite. Allez, sur RMC. But.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Julien Laurence, Fred Hermel, Johan Crochet, Paulo Breitner sont avec nous. On vous attend à partir de 21h45, dans 10 minutes, hein, pour poser vos questions à vos drôles de dames, hein, comme chaque lundi. Tiens, on va évoquer une séquence très forte, alors qui s'est déroulée aujourd'hui lors de la conférence de presse du Brésil. Vinicius Junior, hein, le joueur du Real Madrid, a été interrogé sur les attaques racistes dont il a été la cible dans les stades, dans des stades en Espagne. Il a expliqué qu'il devait se concentrer sur le foot avant de fondre en larmes et d'être applaudi par les journalistes présents dans la salle de presse.
Eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Voilà, je veux juste jouer au foot, hein, tout faire pour mon club et pour ma famille, dit-il, avant de d'éclater en sanglots. Alors, il a même conclu en disant « Je suis de plus en plus triste, j'ai de moins en moins envie de jouer, mais je vais continuer de lutter. » Voilà, c'est rare de voir Vinicius comme ça. Je sais que tu as été très marqué toi aussi.
Moi, je l'ai jamais vu comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'image du Vinicius un peu, tu vois, un peu chambreur, toujours un peu rigolo et tout sur la pelouse, etc. Mais on a l'impression que ce joueur-là, il est en train de se protéger par l'humour ou même par ses réactions un petit peu... Un peu de râler auprès de l'arbitre, etc. On dit on en fait des trucs, etc. Mais c'est peut-être aussi sa manière de se protéger. Et l'ancien exilé que je suis,
comprend que c'est dans un contexte de son pays, parce qu'il est dans la sélection espagnole, que là il pleure. C'est-à-dire que quand vous vivez à l'étranger, vous êtes beaucoup plus fort en fait. Voilà, on ne veut pas montrer sa faiblesse. Mais on se lâche un peu quand on est dans le contexte familial. Là, il est à Bernabéu, où demain là, l'Espagne affronte le Brésil, mais il est dans le contexte de la sélection brésilienne. Il est dans sa langue, dans le portugais, enfin le brésilien. Et à ce moment-là, là, on sent que c'est plus le Vinicius qui se protège, il se lâche. Et on a aujourd'hui vu le véritable visage de Vinicius, en fait, qui est un gamin de 23 ans.
D'ailleurs, il le dit dans cette longue conf de presse. Ouais,
hein. Il se fait insulter dans tous les matchs. Il y a des cris de singe. Il se fait insulter tous les matchs. L'autre jour à Pamplune, c'était Moualete va meurt, crève Vinicius, t'as 23 ans. Tu veux simplement jouer au foot. Et dans la mauvaise ambiance que j'évoquais tout à l'heure dans le football espagnol, il y a ça aussi. Quand vous avez des journaux qui, pour défendre leur club, justifient le racisme et les insultes, en disant que c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il provoque. Non, il provoque pas. Il est meilleur que toi. Il est meilleur que tes joueurs de merde. Tu vois, il est meilleur. Et t'es jaloux parce que t'as pas un joueur comme ça. Je commence à m'énerver. Parce que moi, de voir pleurer, ça m'a fait quelque chose. Parce que oui, il gagne plein d'argent, oui, il est super célèbre et tout, mais c'est un gamin de 23 ans. Vous vous souvenez, nous, comment on était à 23 ans ? Vous imaginez, nous, même encore aujourd'hui, si dans notre... Pourtant, on a quelques années, à chaque fois qu'on faisait notre métier, notre travail, notre passion, on était insultés. Tu me diras, c'est fréquent, mais tu vois, c'est-à-dire que là, que tu fasses ton métier avec des insultes dans les oreilles, et notamment des insultes racistes. Ouais. Donc, à un moment, voilà, il y a une vraie réflexion autour de ça, et je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui est... Et m'a beaucoup ému, mais ce qui m'a énervé aussi, c'est que automatiquement en Espagne, t'as eu plein de gens qui l'ont critiqué en disant ouais tu pleures, tu fais exprès, mais de toute façon ta vie.
Il y a pas qu'en Espagne, mais les réseaux sociaux, tu sais comment c'est.
Tu vois, tu provoques tout le monde, etc. Non, tu provoques pas, tu joues au foot, t'es meilleur que les autres, quoi. Donc voilà, c'est le talent et la gentillesse qui sont finalement attaqués. Donc il y a et de toute façon, hein, l'Espagne était modélique depuis quelques années, mais là depuis le Covid, c'est reparti, mais vraiment n'importe comment dans la violence, dans le racisme, dans les insultes, c'est vraiment dégueulasse, quoi.
Alors rien à voir, on voulait juste évoquer ça, puisque ça a été une séquence très forte que vous pourrez trouver d'ailleurs sur rmcsport.fr avec l'ensemble des déclarations, le principal des déclarations de Vinicius Junior au cours de cette conf de presse. Rien à voir, autre entraîneur, puisqu'on parlait des entraîneurs qui est dans l'actu, c'est Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'OM, Johan, qui s'est engagé avec la Lazio. Alors bonne idée ou pas d'ailleurs qu'il soit allé là-bas, Yo?
Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Déjà il faut remettre le contexte de quel type d'entraîneur peut... attirer la Lazio. Ils vont pas attirer De Zerbi, ils vont pas attirer ce type d'entraîneur-là. Parmi ce qui était proposé, disponible, je trouve que c'est sans doute le meilleur choix pour plusieurs raisons. La première, elle est évidemment côté terrain, parce que ils vont retrouver du côté de Rome des mécanismes, un schéma, deux choses qui seront assez proches de ce qu'avait Simone Inzaghi quand il était à la Lazio. Défense à 3, alors après ça peut être modulable, 3-5-2 ou 3-4-2-1, même lui en conférence de presse de présentation, il a dit on pourra peut-être jouer, alors tout le monde lui a dit alors le 3-4-2-1 comme à Vérone, comme parfois à Marseille, etc. Et ouais, peut-être qu'on pourra jouer à 3 aussi au milieu de terrain, donc 3-5-2 éventuellement, donc il y aura des mécanismes avec des joueurs qui sont habitués à ça, et des joueurs notamment par exemple Casale, le défenseur central, qui a connu Tudor à l'Hellas Vérone, donc il va le retrouver, lui qui a perdu sa place et qui joue plus, avec Sarri jouait très peu dans une défense, enfin pas la première saison, la saison actuelle. Il va retrouver, je pense, des mécanismes qu'il connaît bien. Manuel Lazzari, qui a perdu aussi sa place sur le côté, qui est une vraie mobilette, lui, qui fait les allers-retours sur le côté, qui va très très vite en transition et qui amène beaucoup de choses. Là, je pense que ça va aussi lui parler, ce type de football-là. Donc, il y a pas mal de joueurs qui vont retrouver des mécanismes qu'ils avaient un peu perdus avec Sarri, même si Sarri avait réussi à mettre en place un peu quelques-unes de ses idées. Le deuxième point, c'est sur l'exigence. Et d'ailleurs, Claudio Lotito, le président de la Lazio, en conférence de presse, il accompagnait son entraîneur, il avait dit c'est un entraîneur parfait d'un point de vue tactique et sur le plan de l'exigence.
Et à Rome, d'ailleurs, il avait déclaré, après que Sarri soit parti, qu'en gros, son vestiaire était ingérable, que les joueurs faisaient n'importe quoi. Il a dit, j'ai vu des trucs complètement dégueulasses, quoi, un truc du genre, en parlant du comportement de ses joueurs.
Ça fait partie des limites des clubs romains, dont j'ai souvent parlé du côté de la Roma, mais c'est un peu pareil à la Lazio. C'est un peu pareil parfois à Naples aussi. C'est ces clubs du sud de l'Italie où on les oppose parfois aux grosses machines d'exigence, d'institution du nord de l'Italie. Et effectivement, les clubs romains et le Napoli, c'est pas forcément ça, et c'est un petit peu plus difficile. Donc quand tu prends un entraîneur qui va mettre de l'exigence, c'est ce qui a amené Mourinho aussi quand il est arrivé au départ, c'est jamais une mauvaise idée. Il faut aussi redonner de l'enthousiasme à un environnement qui en a beaucoup perdu cette saison.
Qu'est-ce que tu appelles l'environnement, c'est-à-dire
les supporters,
ah oui,
les
gens qui sont autour,
même à l'intérieur du club, les salariés, etc. L'environnement en Italie, c'est tout ce qui définit le club en termes de supporterisme et des gens qui travaillent. C'est même pas que l'entourage, mais c'est
l'atmosphère qui est autour.
L'atmosphère qui est autour du club. Exactement. Ouais. Et ils ont été un peu déprimés par ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu quelques lueurs comme ça. Il y a eu le derby aller qu'ils ont gagné contre la Roma. Il y a eu la qualification en huitième de Ligue des Champions, la victoire donc contre le Bayern. Il y a eu quelques flashs comme ça dans la saison, mais une saison assez morose. Et Tudor, avec son jeu très énergivore, avec son idée d'être comme assez offensif, même si au départ ça peut paraître un petit peu prudent, mais de lâcher les chevaux en transition, ça amène quelque chose, ça suscite quelque chose dans les travées du stade. Donc je pense que ça peut aider. Et je vous ai sorti deux, trois petites phrases très rapidement pour boucler sur sa conférence de presse. Quand on lui parle de divertissement, lui répond « Moi, je veux gagner. Quand je regarde un match à la télé, si au bout de 10 minutes, ça ne me plaît pas, je change de chaîne. Si je dois jouer façon Catenaccio, comme un club de province pour gagner un match, je suis capable aussi de le faire. » Deuxième chose, le football évolue vers une composante physique de plus en plus importante, vers un jeu de plus en plus rapide. L'entraîneur doit s'adapter à ses joueurs sans renoncer à ses idées fortes. Il a vachement insisté sur le côté évolution du football. Et effectivement, son style s'inscrit plus dans cette évolution que le style de Sarri, par exemple. Troisième chose sur Guendouzi, parce qu'évidemment, ça va devenir un pilier de la Lazio. Enfin, ça l'est déjà, mais...
Dont les rapports étaient un peu bizarres, on va dire, à Marseille, ouais.
Exactement. Et lui, il a dit, je suis content de le retrouver à la Lazio, j'ai un bon feeling avec lui. Il a de l'expérience, il veut toujours gagner, toujours jouer. On fera de belles choses ensemble. Attention, les trois premiers matchs, quand même, en une semaine, à la reprise, là, après la trêve internationale. Réception de la Juve en championnat. Déplacement à Turin, demi-finale à la Ligue de Coupe d'Italie, contre la Juve. Derby de Rome. Deux matchs contre la Juve, derby de Rome en une semaine. Un thème assez intéressant pour Tudor. Et il a dit une petite phrase qui fera réfléchir certains, et Daniel n'est pas là, mais il aurait bien aimé. Entraîner en Italie, plus facile, car il y a une grande culture de travail chez les joueurs.
Ça va faire plaisir au Marseille.
Ouais. Voilà.
Merci Johan. Allez, petite musique allemande, tiens. Alors pourquoi cette musique, mon Polo ?
Parce que Nina Hagen, déjà.
Oui, ça se tient.
Chanson de 2022. Parce que les comptes pour la saison 2022-2023 sont sortis en Allemagne, pour la première et la seconde division, qui dépendent de la Ligue allemande. Et la Bundesliga est revenue dans le bleu, est revenue à récupérer, à équilibrer ses comptes. On a eu un chiffre d'affaires record de près de 4,5 milliards, ce qui, si vous divisez par 18, fait une moyenne par club de 250 millions. Ce qui d'ailleurs aussi là est l'une de mes thématiques favorites, parce que j'aimerais bien aussi, quand on parle des clubs français, de la taille des clubs français, ou quand avec Julien on dit que Aston Villa ou Stuttgart, ce n'est pas Brest, il y a aussi des conséquences derrière. Et pour la première fois, et ben, si tu veux, on a le sentiment que la période Covid est vraiment finie en Allemagne. Alors il y a eu énormément d'efforts faits sur la masse salariale. L'Allemagne s'est beaucoup endettée durant cette période, et je me posais la question. Alors en Allemagne, ils sont tous très contents. Moi, je l'analyse depuis plusieurs années, donc je considère qu'on n'a pas encore passé la période du Covid. Mais en tout cas, la chanson de Nina Hagen, c'est Geld, 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 donc l'argent, l'argent, l'argent. Et on a le sentiment que les Allemands, en tout cas la Bundesliga, est sur le bon chemin pour retrouver une croissance, j'ai pas envie de dire saine, mais en tout cas constante.
Eh bien, le bon chemin pour la croissance constante, c'est le 32-16. Venez poser vos questions aux drôles de dames. Et elles vous attendent. Max vous attend au standard, lui aussi. Julien, Laurence, Fred Hermel, Johan Crochet, Polo Breitner vous attendent. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et nos drôles de dames ensemble jusqu'à 22h. Nico Jamin sera là pour prendre le relais à partir de 22h. On vous attend au 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames. Et on perd pas de temps. On a Guillaume qui nous a appelé au 32-16, qui nous appelle de la magnifique ville de Poissy. Où est né ?
Bonsoir tout le monde.
Salut Guillaume. Qui est né à Poissy ?
Je sais pas du tout.
On vient d'en parler il y a 10 secondes. Matteo Guendouzi.
Voilà. Matteo Guendouzi.
Et sache-le, un beau gosse de la radio, Nico Villas aussi. Alors Guillaume,
tu es à Poissy ?
Ouais, je suis né à Poissy, effectivement. Tu avais une question pour un autre beau gosse, pour Julien Laurence.
Absolument.
Qui n'est pas né à Poissy.
Non.
Non, mais pas très loin.
Ah ouais, t'es né où toi ?
Bah, moi, dans le 12e, à Bastille.
Bon, rien à voir, c'est loin quand même. Bon, c'est la même région.
C'est à Paris, je veux dire, voilà, c'est pas comme si j'étais à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux. Je sais pas où, moi.
Pardon, excuse-moi.
C'est la même région, toi aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, vas-y, Guillaume.
C'est plus cher, le 12e.
Ouais.
Je ne sais pas si sa connaissance des joueurs va jusque-là, mais dans la folie des achats de Chelsea, il y a quand même des minots, mais des petits. Et je me posais la question sur KCDI, s'il avait des news sur ce joueur, parce que de ce que je vois, il a l'air de sortir un petit peu du lot, et puis le petit Washington aussi. Donc voilà, savoir si il faudrait suivre ces jeunes-là ou non.
D'ailleurs, Washington, il est de la région parce qu'il est d'ici.
Oh. Ah là, ça c'est la blague de l'année.
Tu sors, là.
Vas-y, Jules.
Très bonne question. Alors, tu sais, il était en prêt à Leicester la première partie de saison avec Enzo Maresca, où il était très bon. Et d'ailleurs, Leicester sont toujours d'ailleurs très bons en Championship. Et ils devraient monter, même si je pense qu'ils vont prendre des points de pénalité. Et puis Chelsea a décidé de le rappeler sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, finalement, sans que ce soit trop expliqué non plus, parce que depuis qu'il est revenu. Il joue 5 minutes contre Liverpool, 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là. J'ai pas trop compris en fait la logique derrière le rappeler du prêt à Leicester, où ça fonctionnait très bien dans une équipe qui joue comme une équipe de première ligue, en plus qui joue très bien au ballon avec un entraîneur comme Maresca où il apprenait clairement beaucoup, et qui continuait finalement sur la lancée un petit peu ce qu'on avait vu à la Coupe du Monde des U20 avec l'Italie et tout ça. Donc c'était vraiment bien. Et puis je sais pas pourquoi il prétendrait Santos à Strasbourg, qui joue au même poste, ça c'est très bien, et tu rappelles un jeune joueur comme Casadei qui a besoin de jouer, et au final tu le fais pas jouer. Donc je sais pas, peut-être que Pochettino voulait le voir à l'entraînement, j'ai pas trop compris, mais oui, à mon avis c'est quelqu'un, Yo pourra sûrement confirmer aussi, qui a un très très gros potentiel, hein, qui était un très gros potentiel déjà à l'Inter, c'était un très joli
coup
de la part de Chelsea d'être allé le chercher là-bas. Et voilà, après Washington c'est différent, parce que alors lui on l'a pas vu du tout quasiment. Mais tu sais, c'était depuis l'arrivée des Américains, cette volonté d'aller chercher les meilleurs jeunes pour les valoriser et puis j'imagine les vendre ensuite. Mais en tout cas, pour Casadei, on verra les programmes. Mais j'ai pas trop compris, si tu veux, le rappel du prêt de Leicester.
Alors, merci Guillaume de nous avoir appelé au 32-16. On enchaîne. Il y a beaucoup d'appels hein, d'ailleurs au 32-16. Anzo nous a appelé également. Ciao Anzo, comment va?
Caraga.
Ah, c'est pas pour moi la question.
Anzo, va bene, va bene, Anzo.
On le connaît, Anzo.
C'est que t'es
fidèle.
C'est dans la question per Ian Crocetto che te ho chiamo.
Exactement. Je voulais élargir un peu après cette magnifique saison qu'on est en train de vivre du côté du Napoli. Aujourd'hui, il y a la notif qui est tombée comme quoi Calzona ne serait pas maintenu. Bon, on est à moitié surpris du côté de Naples. De toute façon, on se demande qu'est-ce qui va rester à la fin de la saison. Mais par contre, on essaye un peu de se projeter et j'aimerais avoir un peu son son de cloche sur le futur entraîneur qui pourrait être à la tête du club, avec de mon côté une petite préférence pour Vincenzo Italiano s'il vient avec le duo argentin Quarta et González, quoi.
Alors, favori numéro 1, clairement Italiano. Il y a clairement une fin de cycle de 2 ans à la Fiorentina, et même pour lui, je pense que les 2 ans qu'il a fait, c'est très bien, parce qu'il venait quand même de Spezia, donc c'était pas non plus un très gros club, et la progression logique maintenant, c'est d'aller chercher le top 6 italien, et le Napoli a besoin d'un entraîneur de ce type-là, un entraîneur qui reparle de terrain, un entraîneur qui remet des choses en place sur le terrain, un entraîneur qui recomprend à nouveau ce qu'est le Napoli, comment doit jouer le Napoli, quelle émotion il doit faire passer à son public, qu'est-ce qu'il doit tirer de ses joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont totalement disparu et c'est pas normal. Un joueur comme Raspadori a totalement disparu et c'est pas normal. Un joueur comme Lindström, il est pas dégueulasse, il est en capacité de jouer en Serie A. Et je pense qu'avec un entraîneur comme Italiano, qui est très attaché à développer un style de football attrayant, qui valorise les joueurs et qui entre dans un cycle qui aide le club aussi à devenir compétitif, à la fois en championnat, mais aussi sur certaines compétitions européennes, je pense que c'est effectivement le meilleur choix possible pour le Napoli, même si un autre entraîneur qui est encore en poste, et peut-être qu'il restera en poste, j'ai quelques doutes là-dessus, mais qui pourrait être intéressant pour le Napoli, c'est Stefano Pioli. Dans le genre, ramener de la normalité, faire progresser aussi les joueurs,
c'est de avoir de l'ambition. C'est ce qu'il vit là quand même.
Ouais, mais ça serait très intéressant aussi, je pense, pour le Napoli d'avoir un entraîneur comme Pioli.
Merci Anzo de nous avoir appelé. Autre appel pour les questions de nos drôles de dames, c'est Renaud qui nous a appelé au 32-16. Salut Renaud.
Oui, bonsoir Nicolas et bonsoir à toute l'équipe.
Salut Renaud. Alors, t'avais une question. Eh ben, c'est gentil, en tout cas, t'es bienvenu, Renaud. T'avais une question pour qui, Renaud ?
C'est une question pour Frédéric Hermel, bien sûr.
Bien sûr, ah, vas-y, pour Frédéric.
Bien sûr.
Frédéric, on l'a pas appelé comme ça depuis 92, il se faisait engueuler.
Ouais, c'est ça, c'est Frédéric Hermel, c'est qu'elle a vraiment un truc à me dire.
Alors vas-y, Frédéric.
Ben oui, mais c'est un peu logique. Mais après, vu mon tropisme espagnol et sud-américain, c'est un peu normal que ce soit Fred que je sollicite. Ouais, demain, il y a un très très beau match amical qui va avoir lieu à Lens, d'ailleurs, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay. Je trouve que c'est une affiche tout à fait magnifique. Et je voulais avoir un peu l'avis de Fred, en sachant que l'Uruguay, qui avait bien terminé l'année 2023 avec des résultats absolument incroyables, on se souvient de leur victoire consécutive contre le Brésil et contre l'Argentine dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour la zone Amérique du Sud. Là, ils ont fait un match plutôt moyen, visiblement, contre une sélection du Pays Basque, même s'il y a peut-être quelques joueurs qui sont plutôt pas mal. Je voulais avoir son avis ou son sentiment sur la rencontre de demain.
C'est le tour de Frédéric.
Alors, bon, alors comme tu le sais bien, je ne suis pas le spécialiste du football sud-américain. Je peux simplement te parler de Fede Valverde, par exemple, qui est l'un des leaders de cette sélection uruguayenne. Et c'est vrai que Valverde, on le sent, alors toi qui suis la sélection uruguayenne, il était quand même l'un des moteurs du Real et l'un des moteurs de la sélection uruguayenne. On le sent un petit peu en dedans cette saison. C'est-à-dire que beaucoup moins de régularité, il marque moins. Il tente moins de régularité. On va dire qu'il pèse un petit peu moins sur le jeu, même si c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. On a l'impression qu'il pèse un petit peu moins sur le jeu du Real cette saison. Mais je dois te dire que voilà, je ne suis pas un grand spécialiste.
Ils viennent jouer contre le Pays Basque, c'est ça, là. Ils viennent de faire un partout d'ailleurs.
Ça aussi parce qu'il y a des sélections.
Faudrait qu'on fasse un truc là-dessus, hein,
ouais, parce qu'il y a la sélection catalane, la sélection basque, la sélection asturienne. Il y a plein de sélections bis
catalane,
bien entendu, régionales.
Il y a même l'équipe de Sicile, il y a la sélection de Sicile, de Sardaigne.
Ouais. Ah ouais, ça existe ça aussi.
Moi j'ai le maillot de la Sicile, ouais. On m'a offert. La Corse, bien sûr, la squadra Corse, excellent podcast.
Je me demande, je crois qu'il y a même une sélection de la Manche, la Mancha aussi. Donc, ouais. Et je crois que tu voulais parler de Vinicius aussi.
On n'aura plus le temps, les gars. Là, il reste 10 secondes. On en reparlera plus tard. Bon, Renaud, merci de nous avoir appelés en tout cas.
Merci.
De rien, c'est avec plaisir. Nicolas, je vous annonce en exclusivité sur RMC, le vainqueur de l'Euro 2024, ce sera le Portugal.
Eh bien, écoute, enchaînera, okay. Comme on dit chez nous. Voilà, merci.
Je le sens bien.
Oui, bah, j'aimerais bien le sentir aussi. Voilà. Inch'Allah.
C'est Ochala en espagnol.
Ouais, c'est ça. Ça vient d'Inch'Allah.
Ça vient d'Inch'Allah, exactement.
Merci beaucoup. Merci Polo. Merci Julien. Merci Fred. Ciao. Merci Yoann. L'After qui est là, qui vous attend au 32-16. Nico Jamin arrive, il prend le relais. On est là jusqu'à minuit, comme chaque soir, bien entendu. Bisous, prenez soin de vous. Et à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.